Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans ce plateau de Fumes, section Europe. Nous allons méditer, nous allons commencer, il est temps, nous allons commencer la méditation. Pour cela, je vais demander à Maman Jacqueline de remettre la réunion entre les mains du Seigneur, s'il vous plaît.
Oui, prions. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur notre Dieu pour ce temps merveilleux que tu nous accordes encore aujourd'hui, éternel Papa. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions accepter et comprendre la parole qui sera partagée aujourd'hui. Nous te remettons cette réunion Seigneur notre Dieu, Papa. Tu es digne de louange et d'adoration, c'est pourquoi nous venons t'adorer et te bénir à travers ta parole éternelle. Sois béni, sois glorifié à jamais. Merci pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Merci beaucoup, bien-aimée, pour la prière. Je vais mettre certains numéros, disons, à mythe pour, oui, pour la suite. Alors, bien-aimée, encore bonsoir. Bienvenue dans ce plateau, devant la présence de ce plateau de fumée, devant la présence de notre Dieu. Alors, nous allons méditer notre parole de ce soir dans le livre de Genèse, chapitre 30, à partir de verset 1 jusqu'au verset 24. Pour cela, je vais demander à notre sœur Christine d'Angleterre de nous faire la lecture, s'il vous plaît.
Okay. Lisons la parole du Seigneur bien-aimé au chapitre 30 de Genèse à partir du verset 1 jusqu'à 24. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place des dieux qui t'empêchent d'être féconde ?» Elle dit, « Voici ma servante Bila, va vers elle. » Qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. Elle donna pour femme Bila, sa servante, et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob, et Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Asser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Et Dieu exhorta Léa, qui devint enceinte, et elle enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari et l'appela du nom d'Issacar. Léa devint encore enceinte et elle enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté six fils. Elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est la parole du Seigneur bien-aimé.
Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, ma sœur Christine d'Angleterre, pour la lecture. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous venons, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous venons d'écouter la lecture faite par notre sœur Christine d'Angleterre dans le livre de Genèse, chapitre 30, du verset 1 jusqu'au verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu comment est-ce que le Seigneur nous a donné plein de leçons. Nous avons vu Jacob, disons, Laban qui a proposé à Jacob un salaire et Jacob a exécuté, mais le jour J, c'était 7 ans qu'il a travaillé, au lieu qu'on lui donne Rachel pour qui il a travaillé, non, comme la coutume, on lui a donné Léa, comme la coutume exigeait que l'aîné devrait se marier. Et nous avons vu Léa dans son, disons, Léa qui devient la femme. Donc quand Jacob découvre le lendemain, découvre que ce n'était pas Rachel comme convenu, mais c'était qu'il a été trompé, comme lui a trompé aussi son frère. Il a reçu ce qu'il avait semé. Donc, nous avons eu plein de leçons. Aujourd'hui, là, nous sommes devant, disons, la suite de cette polygamie qui s'est affichée. Disons, nous voyons là, nous pouvons bien aimer dans le Seigneur pour comprendre le texte, la répartir en deux parties. Première partie, du verset 1 jusqu'au verset 13. La deuxième partie, verset 14 jusqu'au verset 25. Donc, on nous parle de Mandragore que le fils de Léa avait amené et avait découvert. Le Mandragore, j'étais en train de chercher, c'était quoi exactement? C'était un fruit qui, facilitait la fécondité. Donc, oui. Alors, nous allons voir ces deux parties. La première partie, nous allons voir comment est-ce que Rachel... quand je lisais les textes, c'est un peu triste. Rachel, qui est fatiguée de la stérilité, pense que c'est l'homme qui peut lui donner des enfants. Il dit, tu me donnes des enfants ou bien je meurs. Alors, la colère de Jacob, nous allons vraiment ensemble voir. Je ne veux pas entrer là-dedans, c'est tellement triste et et beau aussi, et tout ça, nous allons apprendre beaucoup de leçons ensemble. Alors, pour cela, quand nous répondons, nous pouvons réfléchir à ces deux questions, bien-aimés. Question 7 et question 8. Question 7, c'est, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Question 8, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aide à comprendre ce que je lis? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tellement que c'est intéressant, je ne veux pas garder la parole, je voudrais vous donner à vous l'assemblée la parole. Bien-aimé, qui veut se jeter la première dans l'eau ou qui veut commencer à nous édifier par ce que Dieu a mis dans son cœur, s'il vous plaît? Oui, je ne vois pas encore de main. Il n'y a qu'une seule personne qui a mis. Nous pouvons soit parler, soit demander. Mais sinon, en attendant, la modératrice va parler parce qu'elle ne voit pas encore de main. Le verset 1 nous dit ceci. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Bien-aimés, regardons comment est-ce que la polygamie, la rivalité peut amener quelqu'un, une personne. Rachel ici, Léa c'est sa sœur aînée. Mais parce qu'il y a la rivalité, il y a la stérilité qui a pris la place, Elle pense que les enfants, c'est l'homme. Apparemment, c'est vrai. On peut voir que c'est l'homme, mais c'est Dieu qui place les enfants dans les seins d'une femme. Et elle le dit, c'est vraiment malheureux. Donne-moi les enfants. Si tu ne me donnes pas, je meurs. Oh, bien-aimé. Donc, c'était dur. Moi, j'étais triste quand j'ai lu ça. Pourquoi la mort doit, à cause d'une situation temporaire, disons, que je dois chercher la mort. Ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Les enfants, c'est Dieu qui les donne, bien qu'on s'accouple, mais c'est Dieu qui met place les enfants dans les seins. Amen.
Amen.
Qui peut nous prendre le verset 2? Je souhaite revenir sur ce même verset, s'il y a une idée qui n'a pas été relevée.
Bon, moi, je peux enchaîner avec les deux.
Oui, allez-y, ma belle.
Oui, les deux, heureusement, Jacob connaît qui donne les enfants. Il sait que c'est Dieu, les enfants. Lui, c'est un instrument que Dieu peut utiliser pour transmettre la semence. Mais la source de toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le créateur. Je crois que c'est vraiment un bon exemple à suivre ici parce que de nos jours aussi, dans nos familles, nous avons des problèmes. On peut avoir un enfant qui est marié et ça fait des années qu'il n'a pas d'enfant. Et cet enfant peut se fâcher contre ses parents, il peut se fâcher contre les tantes, comme c'est l'habitude chez nous, c'est à cause de cette tante-là, parce qu'elle m'avait fait ça, elle avait dit ça, parce qu'elle avait demandé cette chose que je ne lui ai pas donnée, ou bien alors on ne s'était pas bien partagé la dot, tout ça. C'est pour cela que je ne peux pas avoir des enfants. Mais je crois que Jacob nous a donné un bon exemple ici pour dire que c'est Dieu qui donne les enfants. L'homme ne peut pas prendre la place de Dieu pour donner des enfants. Donc, c'est à Dieu qu'on doit s'adresser si nous avons besoin d'avoir des enfants. Si toutefois, nous réalisons qu'on n'arrive pas à concevoir enfanter, c'est vers Dieu que nous devons tourner notre regard au lieu de tourner vers la famille, vers les hommes. Voilà ce que je voulais dire au verset Dieu.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur. C'est Dieu qui donne les enfants. Quand nous avons un problème de stérilité, nous ne devons pas tourner les regards vers un homme. Un homme ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et la réaction de Jacob, c'était très bien. Et une bonne réaction. Que ce n'est pas moi qui donne les enfants, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Et nous sommes... Merci beaucoup, ma sœur Christine, pour l'intervention. Et nous sommes au verset 3. Qui peut nous prendre le verset 3? Oui, on peut parler, soit lever la main pour ma sœur Rose, oui. Un instant, ma sœur Rose, merci. Demain, ma sœur Rose. Oui, allez-y, ma sœur Rose.
Oui, merci pour la parole. Je suis au verset 3. Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. La pensée d'une personne, elle veut aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Comme vous avez dit là, c'est Dieu qui donne les enfants. Donc, attendez le moment, quand Dieu va t'exaucer, qui va te donner des enfants? Il ne faut pas aider Dieu en disant, voici ma servante, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux. Ça, c'est la pensée d'une personne. Ce n'est pas bien. Vraiment, moi, quand on grandissait, on attendait comment des mamans disaient où est, ils ouvraient des portes à nos papas. Va vers elle. Va. Moi, je suis vieille. Qu'est-ce que tu vas voir? Est-ce que tu vas voir encore quelque chose de bien en moi? Va dans la rue. Et beaucoup de papas qui sont morts, et il y a eu beaucoup de problèmes à cause du pensée d'une personne, à cause du pensée d'une personne. Alors, ce n'est pas un bon exemple à suivre, quoi. Je sais que je voulais dire.
Oui, merci, merci beaucoup, ma soeur. Ce n'est pas un bon exemple à suivre. Parce qu'il y a des conséquences. Et nous pouvons... Moi, avant, je vais donner la parole à papa José, j'avais vu tout à l'heure, et maman Jacqueline. Après, mais j'aimerais donner quelque chose là. Quand elle dit déjà là que je ne peux pas, disons, va vers ma servante. Vous vous souvenez aussi à Genèse? Oui, Sarai a dit après, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être que j'ai d'elle des enfants. Et Abraham écoutait sa voix. Parfois, ça, c'est induire les hommes en erreur. Si ça ne vient pas, nous supportons, nous attendons. Il n'y a pas question de d'envoyer l'homme chez la servante. Et c'est... Heureusement, je me demande, les femmes de cette époque-là n'étaient pas jalouses, quoi. Comme... Mais ce n'est pas un exemple, c'est l'exemple à ne pas suivre. Amen.
Oui, amen.
Et bien-aimé, je... Papa José. Un instant, papa, s'il vous plaît. Oui, papa José de Paris, allez-y.
Je voudrais parler sur le verset 1.
Allez-y, papa, ça ne dérange pas.
Nous savons très bien que Jacob a connu une situation un peu bizarre. Nous le savons très bien. Parce que lui-même a commencé à mentir à partir de ses parents. Il a menti à son grand frère. Nous connaissons l'histoire, on ne va pas revenir. Nous savons ce qui s'est passé et comment il est parti en fuyant la colère de son grand frère. Ce qu'il avait semé le poursuit jusqu'à la maison de Laban pour aller travailler et trouver la femme. Nous connaissons très très bien l'histoire. Il a été trompé lui aussi pour la femme. Nous pouvons nous poser 1000 questions. Un homme qui va avec la grande sœur va seulement découvrir le matin que ce n'est pas Léa, c'est une autre. Ce n'est pas Rachel, c'est une autre.
Mm-hmm.
Bon, on ne va pas revenir. Il a été trompé parce que ce qu'il a semé le poursuivait.
Mm-hmm.
Et maintenant, Dieu a fait que Rachel soit stérile. Mais quand Rachel s'est adressée à son mari pour dire que « Donne-moi l'enfant, sinon je meurs », nous ne pouvons pas directement le condamner. La réponse de Jacob était très très bien, c'est spirituel, c'est Dieu qui donne les enfants. Mais par contre, entre le mari et la femme, on ne sait pas ce qui s'est passé. Leur conversation entre le mari et la femme, nous ne connaissons pas. Nous disons simplement que Rachel a dit « Donne-moi l'enfant, sinon je veux mourir. » Mais peut-être que ils se sont très bien entretenus tous les deux. Et ensuite, Rachel a appuyé à son mari qu'il faut que tu me donnes l'enfant. Et le mari, inspiré de la puissance de l'Esprit de Dieu, lui a répondu « Non, ce n'est pas moi qui ai les problèmes, mais il faut nous s'adresser à Dieu qui donne. » Donc, de ce côté-là, comme vous avez dit, je suis très content que c'est un bon exemple à suivre parce que Dieu qui donne. Mais on ne peut pas directement condamner Rachel, parce que nous ne savons pas exactement, entre les deux couples, comment a été déroulé leur entretien, leur causerie, pour arriver à ce point-là de dire que donne-moi l'enfant, sinon je meurs. Et donc, ça a commencé peut-être, on ne sait comment. Mais je trouve que Jacob a bien répondu. Mais nous ne devons pas oublier que jusqu'à la suite, comme la sœur a dit tout à l'heure, de ne pas suivre l'exemple de prendre ta sœur ou ta servante et donner, tout ça sont les conséquences du péché de Jacob. Parce que lui a commencé par tromper, c'est lui, c'est pour cela que ça le poursuit. Mais comment un homme peut se comporter comme ça, tu es à la maison, on te donne une servante en présence de ta femme, tu ne peux pas réagir, tu ne peux pas dire non parce que tu es dans ma famille prie ou bien je prie, j'ai un Dieu, tu as été visité quand tu as fui, tu as vu comment tu as lutté, mais tu vas dire oui, j'accepte et tu vas de gauche à droite, de gauche à droite. Vraiment, ça, ce sont des conséquences du mensonge. Le mensonge, c'est un péché qui provoque beaucoup d'histoires. Donc, ça, c'est moi, c'est comme ça, quand je méditais, je voyais que c'était comme ça. Mais, voilà, je m'arrête un peu là parce que le temps passe. Voilà.
Merci beaucoup, papa, pour l'intervention. Et nous voyons, ses mères nous disent ceci, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants. » Donc, la demande, bon, selon ce que j'ai compris dans ses mères ici, la demande était poussée par la jalousie du fond de son cœur. Et pour dire aussi que vraiment, la polygamie, c'est pas une bonne chose. Regarde ici, ce sont des enfants de même père. Les enfants de Léa, normalement, c'est les enfants de Rachel. Rachel est une tante. Mais regarde, à cause de la jalousie, à cause de la rivalité, comment est-ce qu'ils sont en train de se traiter? Nous verrons même la dernière partie. Merci beaucoup, papa, pour votre intervention. Je donne la parole à notre sœur Jacqueline, s'il vous plaît.
Oui, merci pour la parole. Moi, je voulais abonder un peu dans le même sens de la polygamie, qui est une très mauvaise chose, parce que je vois ici que au verset 3, Rachel qui donne sa servante Bilha à son mari pour avoir elle ait un enfant à travers cette servante. Et pourtant, Léa, c'est sa sœur. Léa, c'est sa sœur. Et elle préfère considérer l'enfant qui va naître de sa servante comme son enfant que de considérer l'enfant qui naît des enfants qui sont nés de sa sœur comme ses enfants. Et pourtant, la servante devient aussi la femme de son mari. Et vraiment, la polygamie entraîne vraiment... c'est une distraction vraiment qu'il faut éviter parce que ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal de considérer l'enfant de la servante comme ton enfant pendant que ta sœur a des enfants que tu considères qui ne sont pas des enfants. Donc, c'est ça un peu qui m'avait touché pour ce troisième verset, quoi. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Ça, c'est vraiment touchant, la façon dont la polygamie peut vraiment nous entraîner à vraiment des choses qui ne sont pas normales, de voir que l'enfant de la servante est mon enfant, mais tandis que de ma sœur propre, à cause de son partage, les mêmes maris, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Merci beaucoup, ma sœur. Nous donnons la parole à notre sœur Christine d'Angleterre, s'il vous plaît.
Oui, merci, bien-aimée, pour la parole. Bien-aimée, j'ai remarqué quelque chose depuis hier, en parlant des servantes de Bilha et Zilpa. Et je crois que Laban n'avait pas donné ces deux-là à Jacob comme femme, mais comme servante pour ses deux filles. Chacune avait une servante. Je crois que c'était la coutume à l'époque de quand tu donnes, peut-être pour les riches, quand tu maries ta fille, tu lui donnes quelqu'un pour l'aider, une femme, une servante. Je crois que c'est ça parce que si vous regardez bien dans l'Ancien Testament, vous verrez que même quand Abimelech a donné beaucoup de biens à Abraham après cet incident qu'il y a eu entre lui et Sarah, et la Bible dit qu'il lui a donné beaucoup de biens et des servantes et des serviteurs aussi. Alors, c'est pour dire que je ne pense pas que Laban avait l'intention de donner les deux servantes à Jacob pour femme, non. Ce sont maintenant à cause, bien comme vous venez de le dire, à cause de la polygamie, que Rachel a préféré prendre sa servante comme Sarah avait fait pour donner sa servante à son mari pour que la servante puisse lui donner des enfants. Et si ça continue avec l'autre, c'est toujours dans le même ordre d'idées, la jalousie qui était à la base de les conséquences de la polygamie. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, bien-aimé. Et j'aimerais, s'il vous plaît, continuer avec le verset 4 qui a, disons, la continuité, même dans le verset 5, que Bila, disons que Rachel, à cause de la jalousie qu'elle avait, sûrement qu'elle était en colère, et aussi sachant que l'homme l'aimait beaucoup, vous voyez aussi. Je vois aussi l'amour qui intervient ici parce qu'elle sait, quand l'homme aime beaucoup la femme, c'est une source de faiblesse encore parce que la femme va prendre maintenant le dessus, elle va se sentir en position de force, elle va imposer maintenant sa demande à son mari. Et le mari, sachant qu'il aimait beaucoup cette femme et qu'il avait même beaucoup travaillé pour l'acquérir, alors il ne peut pas refuser de faire plaisir à sa femme. C'est comme ça qu'il a pris la servante.
Amen.
Et comme Dieu aussi est compliqué et souverain, la servante lui a donné un enfant.
Mm-hmm.
Voilà, bien-aimé, ce que je voulais partager.
Mm-hmm. J'aime bien la façon de dire, comme Dieu est compliqué, ça
oui,
c'est...
On
ne peut pas connaître vraiment exactement la façon que Dieu voit les choses. C'est différent de nous, les hommes, vraiment. Et donc, la polygamie, vraiment, peut diviser même la famille. Ici, on peut sentir qu'il y a une division entre Rachel et Léa. Et pourtant, ce sont les enfants des mêmes pères et mêmes mères, d'ailleurs. Oh, bien-aimé. Merci beaucoup, ma soeur, pour l'intervention. Je donne la parole à ma soeur Jacqueline.
Oui, moi, je suis au verset 6. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il m'a même écouté et m'a accordé un fils. C'est pourquoi elle l'appela Dan.
Mm-hmm.
Bon, quand on regarde au deuxième verset, Jacob lui dit bien que, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants? Et au lieu d'aller vers ce Dieu-là qu'elle prétend maintenant que Dieu m'a rendu justice, non, elle fait la justice à elle-même et elle donne comme femme à son mari la servante. Moi, je trouve que c'est une volonté permissive de Dieu parce que elle pouvait aller aussi vers Dieu qui donne et demander à Dieu, mais elle préfère faire sa volonté à elle. Et puis après ça, elle s'acclame en disant, Dieu m'a fait justice. Je sais que c'est Dieu qui donne les enfants, mais ça, pour moi, c'est une volonté permissive, en tout cas. C'est ça que je voulais dire au verset 6. Quoi.
Voilà, c'est vraiment c'est ce que nous disons. C'est pas la volonté de Dieu. Il fallait qu'il soit patient pour attendre et que les temps... Mais c'est toujours, c'est comme notre ancêtre Sarah qui avait mis sa servante. Et l'enfant est là, mais ce n'était pas l'enfant de la promesse. Il est venu.
Non.
Il est venu, Ismaël, mais ce n'était pas lui. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va dire que ce n'était pas lui, c'est l'enfant sortira de tes propres seins. Donc, c'est ce que nous voyons. Bien-aimé, merci beaucoup, ma soeur, pour l'intervention. Nous sommes au verset 7 ou 8 qui peut nous prendre ces mêmes idées, même qui peut nous prendre ces versets-là, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup de versets. Oui, bien-aimé, il y a un enfant, premier enfant qui est né de Bila. Il y a un second qui vient encore. Et Rachel est dans la joie. Il dit, j'ai lutté divinement, là c'est 8, contre ma soeur et j'ai vaincu. Elle s'appellera Neftali. Bien-aimé, c'est comme on a dit vraiment, la rivalité. Regarde un peu la soeur. Ils sont soeurs pour s'entendre, mais il y a une lutte maintenant. Lutte. Donc, il y a la division. Chacun est en train de chercher les enfants pour son propre compte. Vous voyez comment est-ce que la rivalité, comme on a dit tout à l'heure, et ce qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit, la rivalité, regarde un peu, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Ouh! Donc, et Zilpa, c'est curieux, comme disait notre sœur Christine, c'est difficile ici de comprendre. Comme si c'était, dès que Jacob allait avec des servantes, c'est les enfants qui venaient toujours. Donc, l'enfant ici, il y a sa sœur Léa qui donne Zilpa, sa servante. Donc maintenant, il y a quatre femmes.
Vraiment.
Pour Jacob seul, la polygamie s'est marqué vraiment ça, bas, on peut dire le record là, donc quatre femmes,
vraiment,
deux sœurs et deux servantes. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous épargne de tout ça, que le Seigneur nous protège. Bien-aimé, qu'il y a quelque chose à ajouter, nous sommes au verset 13. Qui peut nous parler du verset 13? C'est très bon là. Ou même verset 11, à partir de 11 et 13, il y a les noms des enfants là. Qui peut nous prendre le verset 11, 12 et 13, s'il vous plaît?
Oui, ma sœur, je peux dire quelque chose. Une autre personne peut continuer, oui. C'est comme nous le disions, tout ça, c'est la conséquence de la polygamie. C'est que la polygamie, ici, il y a la jalousie, il y a ce qu'on appelle chez nous, quoi qu'elle a, vous voyez. Parce que ici, l'autre dit, oh, j'ai lutté, Dieu m'a fait justice, j'ai lutté divinement contre ma sœur. Et ici, la sœur qui se retourne aussi pour dire que voilà, quel bonheur. Et ensuite, que je suis heureuse, les filles me diront heureuse. Donc, tout ça, c'est pour... donc, c'était en train de se taquiner l'une l'autre. Ça provoque des troubles. Je ne pense pas que l'homme, là où il était heureux, il était calme. Il souffrait dans son cœur. Parce que c'est pas facile d'avoir quatre femmes et qu'il y ait deux camps comme ça dans ta maison. C'est pas facile, bien-aimé. C'est pas facile. Je crois que c'est pas un bon exemple à suivre. Tu peux ou ne pas le vouloir, mais ça arrivera toujours, bien-aimé. Parce que quand l'autre va commencer à te taquiner, à lancer des petits mots comme « Oh, quel bonheur! Oh, qu'est-ce que je suis heureuse! Oh, qu'il est beau mon bébé !» et tout ça, je crois que ça va toujours faire mal, tu finiras par parler, bien-aimé. Donc, autant mieux éviter cette chose-là parce que ça mène beaucoup de problèmes dans le foyer. Donc, c'est ça que je voulais dire. Merci.
C'est vraiment à éviter parce que ça mène beaucoup de problèmes dans le foyer. Bien-aimés, nous pouvons lire Luc. Nous pouvons lire Luc 48. Maman Christine, si tu as trouvé, tu peux nous lire. Luc chapitre 1, verset 48, qu'est-ce qu'on nous dit?
Luc 1, verset 48. Ok, je suis là. Il est dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bien heureuse. Ça, c'est Marie qui parle. C'est le cantique de Marie.
Marie qui parle. Ce propos de Rachel ressemble au propos de...
Non, c'est Léa.
Le propos de Léa, plutôt, ressemble. Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Elle appela l'enfant à sœur. C'est comme le propos que Marie avait prononcé quand on est venu l'annoncer et qu'elle sera enceinte, quoi, pour l'enfant Jésus. Donc, je voulais, parce qu'il y a une question qui nous dit, est-ce qu'il y a-t-il d'autres passages qui peuvent nous aider? C'est pour cela que j'ai donné ce passage-là qui peut nous aider, qui nous a aidé à comprendre ce que nous avons lu. Merci pour la lecture, ma sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons passer maintenant à la deuxième partie, à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Je donne la parole à notre sœur Rose, que je vais démuter. Rose, un instant, ma belle. Oui, je donne la parole, s'il vous plaît.
Ah, en tout cas. J'avais demandé la parole, hein, heureusement que la sœur a beaucoup parlé, mais il y a une question qui me vient là. En ce moment-là, la tête de Jacob, comment il se sentait, comment il regardait, comment, dans son cœur, qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il disait? En tout cas, je me pose des questions. Je me pose des questions. Mais d'autres choses, il y a la sœur qui a parlé, hein. Alors, en tout cas, je n'ai vraiment rien à ajouter parce que je me demande toujours. Je me demande.
Merci beaucoup, ma sœur. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Heureusement que la Bible reste muette. Ne nous dire, mais la sœur a dit, je crois qu'il y avait des sérieux problèmes. Il y a vraiment des sérieux problèmes de division parce que les deux sœurs étaient devenues des rivales. Donc, il n'y avait plus d'entente des enfants de sa sœur, étaient les enfants de sa sœur, pas ses enfants. Ses enfants, on a dit tout à l'heure, et par notre sœur, que c'était plutôt les enfants de sa servante. Donc, vraiment, je ne pense pas que Jacob avait la paix. Et à la paix, il y avait Rachel. Donc, il n'y avait pas la paix. D'abord, il avait plus de penchant, mais plus Rachel. Et les enfants étaient de l'autre côté. Donc, moi, je pense qu'il n'y avait pas. Ça, ce n'est pas un foyer qu'on peut souhaiter, quoi. Donc, je crois que vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas souhaiter avoir vraiment un foyer pareil. Merci beaucoup bien pour la question. S'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose, il va ajouter. Maman Jacqueline, je te donne la parole, s'il vous plaît.
Oui, moi je suis au 14 qui est ensemble avec le 15. Je ne relis pas parce que on l'a déjà lu une fois. Donc, le fils qui apporte des mandragores et Rachel qui demande des mandragores. Moi, pour moi, quand je lis ces deux passages, j'ai l'impression que ces deux femmes-là n'aiment pas cet homme-là. Ils n'ont pas d'amour pour cet homme. C'est comme si c'était un objet pour eux. Eux, leur plaisir, c'est seulement de mettre au monde des enfants. Ils ne regardent pas le bien-être de ce mari. Parce que lorsque Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit. Donc, c'est comme si c'était un objet, c'est comme si on le dirigeait. Là, je suis en train de me demander s'il réfléchissait ou bien il continuait seulement à vivre parce qu'il fallait bien vivre. Parce qu'on se rend, on voit que ces deux femmes sont en train de diriger cet homme. Comme s'il n'a pas de personnalité. Donc, il est en train d'aller d'une femme à l'autre comme ça. Et ils peuvent prendre des décisions sur lui. Bon. Et il exécute seulement ce que ces deux femmes sont en train de lui demander de faire. C'est ça qui me rend un peu triste. Et je me pose des questions pour savoir, mais comment cet homme peut être... Bon. En tout cas, je m'imagine mal un homme comme ça en train de faire des va-et-vient parce que deux femmes sont en train de le diriger, quoi. Et c'est un peu ça qui me chiffonne un peu, quoi.
Oui, amen. Merci, ma soeur. Amen. Merci pour votre intervention. Bien-aimé, ce que je peux faire, c'est vraiment ajouter quelque chose sur ce que maman Jacqueline dit. C'est regarder un peu, bien-aimé, comme on dit, donne-moi, je t'ai pris le madragore de ton fils. Et l'amour, même ils ne pouvaient plus se partager ensemble. Est-ce que vraiment, si l'enfant de ma soeur amène quelque chose, j'ai vraiment demandé à ma soeur, ton fils, c'est mon fils, je suis sa tante. Rachel est la tante de ses fils. Mais même, donc, il va demander à sa soeur, et écoute la réponse de la soeur bien-aimée. Et c'est peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le madragore de mon fils. Il n'y a plus d'amour, la haine n'a plus la place, la jalousie a dominé. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Et Rachel dit, il couchera avec toi cette nuit pour les madragores de ton fils. Je crois au fait que Rachel avait le monopole, comme l'homme l'aimait beaucoup. C'était Rachel peut-être qui dirigeait sur le point sentimental. L'homme était plus penché vers Rachel. Donc, pour dire que quand on dit qu'il faut y aller, c'est pas possible d'aimer d'aimer deux personnes à la fois. C'est-à-dire, c'était incapable d'aimer Léa et Rachel. Le cœur de Jacob était vers Rachel. Et Rachel en a eu pour faire la loi. Parce que ce qu'elle dit là, c'est ce qui va se passer. Et même nous pouvons aller au verset 16. Le soir, quand Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu vas venir, car je t'ai acheté pour le mari de mon fils.
acheté.
Avec elle, celui-là.
Sœur Jackie, tu as entendu ça? On l'a acheté.
Donc,
on l'a même acheté.
Vraiment.
C'est vraiment triste, vraiment.
Bien aimé, c'est triste. C'est triste. Mais moi, j'étais en train de réfléchir. Mais est-ce qu'il y a des ménages comme ça à notre époque?
Peut-être.
Oui. Peut-être. Il y a des choses comme ça où l'homme est ballotté comme ça par. Donc, il n'a pas une décision. Et lui aussi, donc, il était là, qu'on l'envoie à gauche, il va faire. À droite, il va faire. Il n'a... il ne peut pas prendre sa propre décision. Bon, comme c'était l'époque, à ce moment-là, la polygamie était... Je ne sais pas si c'est... comment, là, chez eux. Donc, il est là. Malgré ça, bien-aimé qui peut... Je ne veux pas... monopoliser la parole. Qui peut nous prendre le verset 17? On est là, verset 17.
Oui, ma soeur, si je peux dire quelque chose, s'il vous plaît.
Oui, allez-y, maman.
Je vois là le verset 17, 18, 19, même 20. C'est maintenant le propos de Léa, après avoir eu l'homme qui l'a acheté, elle a eu encore un enfant, et puis un autre, et puis un autre. Et ce qui me fait mal ici, comme la soeur Jacques vient de le dire, ce que j'ai réalisé aussi, à part le fait que le mari est ballotté, je vois aussi ces deux femmes en train de citer le nom de Dieu en vain. Elles prennent le nom de Dieu en vain.
Amen.
Vous voyez, ici, au 17, elle dit, Dieu, ici, ce n'est pas elle qui a dit, 18, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Vous vous rendez compte? Et au 19, elle dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Donc, bien-aimé, je ne sais pas. À cette époque, c'était comment? Ou bien ces filles, ces femmes ne connaissaient pas Dieu ou comment? Comment est-ce qu'elles pouvaient prendre le nom de Dieu en vain comme ça? Là où Dieu n'a pas fait quelque chose, eux disent que non, c'est Dieu qui a fait ça. Non, je ne pense pas que Dieu pouvait accepter qu'il puisse télécommander cet homme comme ça. Je ne pense pas. Mais bon, c'est la Bible, c'est écrit, on doit croire, c'est tout. Hein. Mais moi, ça me fait mal, bien-aimé.
Ça fait très mal de voir ce qui se passe ici. Et surtout, nous sommes des parents. Nous avons des enfants. Imaginez, vous avez deux filles comme ça. Et deux filles vont vivre la rivalité. En tout cas, ce n'est pas un exemple à suivre. Même si l'homme est bon, comment? Mais tenez vos deux enfants, sachez que vous déchirez du moins la famille, quoi. Amen.
Amen.
Nous donnons la parole à notre sœur Jacqueline.
Bon, moi, je suis au 19 et 20. Léa tomba encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Et elle dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari habitera avec moi. Car je lui ai donné six fils. Là, je rejoins l'idée de maman Christine qui disait que Rachel semblait avoir le monopole, quoi.
Ouais, la bien-aimée.
C'est que le mari habitait chez Rachel, puisqu'elle dit « Mon mari habitera avec moi ». Donc, elle était là en tant que femme, mais le mari n'habitait pas avec elle.
Non.
Et, donc, le cœur de Jacob était resté fidèle à son premier amour, donc Rachel, et celle-ci essayait d'acheter un peu cet amour-là, quoi, en mettant des enfants au monde et on dit bien clairement ici, mon mari habitera avec moi. Donc, si elle veut que le mari habite avec elle, c'est que le mari habitait chez sa sœur. Donc, je vois ici que l'amour de Jacob était resté intact pour sa sœur. C'est ça que je vous dis, quoi. Amen.
Amen. L'amour était resté intact. C'est Rachel qui était dans le cœur de Jacob. Donner une leçon vraiment, nous qui avons des enfants, il ne faut pas que nous cherchions à cause de la coutume, de notre coutume, ceci, cela, qu'un enfant va au mariage avec un homme qu'il n'aime pas. Elle sera malheureuse toute la vie. Bien qu'elle a des enfants, sa joie peut-être était quand elle a des enfants, elle cite le nom du Seigneur, là, elle se réjouit et te donne le nom, mais est-ce qu'elle avait l'amour de son mari? Non. Non. Toute la vie.
Je voulais ajouter un petit témoignage en ce qui se concerne cet amour qui a été resté intact, là.
Oui, allez-y, ma...
Chez les Balouba, ils ont aussi un peu cette coutume là, l'enfant, l'aîné doit se marier avant, quoi. Et moi, je me souviens que ma cousine à moi, on était venu chercher la deuxième. Et mon oncle a dit, en tout cas, la deuxième ne peut pas se marier tant que la première n'est pas encore mariée. Alors cette femme-là, comme il voulait seulement épouser une femme dans cette famille-là, avait accepté de prendre la première. Mais ce n'est pas la première qu'il aimait. Alors, la première est partie chez cet homme, enfin, a été épousée par cet homme. Mais résultat, la première, elle n'a jamais été aimée et finalement, ils ont eu des enfants, mais ils ont divorcé. Parce que l'amour de l'homme était toujours était porté vers la seconde. Évidemment, il n'a pas eu la seconde, mais il a chassé la première. Donc, c'est vraiment un exemple à ne pas suivre, quoi. Amen.
Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma soeur, pour ce témoignage. L'exemple n'est pas suivre. Il ne faut pas qu'on épouse parce qu'on doit respecter la coutume. Non, non. Il faut qu'il ait vraiment l'amour, qu'on soit convaincu que ça, c'est vraiment, ça vient de Dieu. Et on laisse l'enfant. Sinon, ça nous donne, nous voyons comment est-ce que cette famille est déchirée. Il n'y a pas d'amour, même pour les fruits. On dit non, non. Je ne donne pas. Qui peut nous prendre le verset 22? C'est là où il y a l'exaucement. Qui peut nous prendre le verset 22, s'il vous plaît? Finalement, Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et l'a rendue féconde. Ouh, quelle joie! Dieu se souvient. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de souvenir. Nous devons savoir que même si nous crions, nous sommes malheureux. Rachel était toute malheureuse, aimée par son mari, mais malgré cela, incapable d'avoir des enfants. Mais Dieu qui est amour se souvient d'elle et exauça, la rendit féconde. Pour dire que notre Dieu, c'est Dieu qui donne tout. Tout ce que nous pouvons avoir ne peut venir que de notre Dieu. Si Dieu ne nous donne pas, nous ne pouvons avoir, nous ne pouvons rien avoir. Et elle est en train, je peux dire même 23, d'exclamer dans la joie pour dire, Dieu a enlevé mon opprobre. 24, elle dit, elle lui donna le nom de Joseph, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ça, c'était son cri. Bien-aimé, nous avons vu cet enfant attendu trop longtemps. Or, c'est cet enfant-là, vous connaissez le rôle qu'a joué Joseph. Il était vendu, c'est vrai, par ses frères, mais pour accueillir les autres. C'est cet enfant trop attendu. Voilà, quand on attend l'enfant de la promesse, regarde comment est-ce que cet enfant vient. C'est l'enfant qui vient trouver une solution. À cette époque-là, vous vous souvenez qu'il était aussi gouverneur là-bas en Égypte, mais il a bien dirigé les choses. C'est cet enfant ici, Joseph. Finalement, Joseph, moi j'étais en train de réfléchir, ma soeur, quel est l'opprobre que tu es en train de passer? Quel est ton l'opprobre? Quand j'ai pensé, bien aimé, il y a notre question, quel est l'autre... Et verset biblique qui m'aide à comprendre ce que j'ai lu. Vous vous souvenez des mêmes déclarations qu'il fait? C'est ce que Élisabeth avait fait. Vous vous souvenez, bien-aimé, n'est-ce pas? Quand on l'a annoncé, la naissance de cet enfant, son enfant, Élisabeth s'est exclamée de la même façon pour dire que Dieu a enlevé mon opprobre. C'est Luc. Luc 1, 25. Maman Christine, si vous êtes là, vous pouvez nous faire la lecture, s'il vous plaît. Qu'on juste lit ce verset-là pour voir.
Luc 1, 25. c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Ça, c'est Elisabeth.
Amen. Elisabeth, c'est la même déclaration que Rachel a faite. Mais, donc, c'est vraiment Dieu réellement enlève l'opprobre, la honte. Bien-aimé, quel est l'opprobre que tu es en train de traverser? La honte. Aujourd'hui, le Seigneur vient t'annoncer pour dire que il va enlever la honte, l'opprobre que tu es en train de traverser. Amen.
Amen.
Donc, je donne la parole. Donc, nous donnons la parole à notre frère José de Paris, s'il vous plaît, papa. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, ma sœur. Je crois que tout ce que j'allais dire a été déjà dit. Donc, voilà.
Ok. Merci beaucoup, bien-aimé. Tout ce qu'il voulait dire a été dit. Bien-aimé, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui bouillonne dans le cœur et quelqu'un veut à tout prix dire cela? Sinon, je demande encore, je m'excuse à maman, c'est Christine d'Angleterre, de nous lire les commentaires de notre bien-aimé qui a médité avant nous, s'il vous plaît.
Regardez le temps, ça peut se couper. Hein?
On a, mais c'est vrai, on n'a pas assez de temps, on a 2 minutes là, oui. Chacun de nous peut faire, je m'excuse, chacun de nous peut lire des commentaires. Nous allons encore être bien nourris par la polygamie et ses conséquences, le titre que notre frère a donné. Oui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je donne le passage de demain. Demain, nous serons dans Genèse 30, à partir de verset 25 jusqu'au verset 43. Et nous allons encore être suffisamment nourris comme ce soir. Alors, je demande à maman Christine d'Angleterre de prier pour nous et penser à tous ceux qui ne sont pas là.
Prions bien-aimé. Dieu notre Père, au nom de ton Fils bien-aimé, nous venons encore devant toi pour te dire un grand merci. Merci pour ta parole qui est toujours d'actualité. Merci Seigneur parce que tu nous as donné une leçon concernant la polygamie. Nous avons vu ses effets, nous avons vu ses conséquences, nous avons vu que la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Et nous prions pour nos bien-aimés, ceux de notre famille ou de notre entourage, qui ont ce penchant d'être polygames, d'avoir 2, 3, 4, 5 femmes parce qu'ils ont de l'argent. Mais que ces gens-là sachent que l'argent que tu leur as donné, ce n'est pas pour en faire ce qu'ils veulent, mais c'est pour l'utiliser avec beaucoup de sagesse. Seigneur notre Dieu, ce Seigneur de nos familles qui sont engagés dans la polygamie, que ce soit des hommes ou des femmes, nous te prions, Seigneur, de les délivrer, parce que c'est de la souffrance, Seigneur, c'est une prison. Oh, Seigneur, nos enfants que nous sommes en train d'élever, Père éternel, laisse que cette parole puisse les aider afin qu'ils ne puissent pas s'engager, Seigneur, dans la polygamie. Mais qu'ils aient, Seigneur, chacun une sa femme et chaque femme son mari. Et ils seront heureux, ils te béniront. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit que les enfants, c'est un don qui vient de toi. C'est toi qui donnes des enfants. Ce n'est pas l'homme ou la tante ou l'oncle qui peuvent donner des enfants, mais c'est toi. Laisse que, Seigneur, cela soit imprimé en lettres d'or dans notre cœur, afin que lorsque les gens viendront vers nous, nos enfants ou les gens, les membres de notre famille ou les frères de l'Église, nous demander comment ils peuvent faire pour avoir des enfants, que nous ne puissions pas les envoyer chez les Nganga, mais que nous puissions les envoyer auprès de toi, toi qui donnes tout. Merci, notre Dieu, notre Roi. Nos bien-aimés qui n'ont pas été avec nous, Seigneur, ils écouteront, Seigneur, cette méditation à la radio et ils pourront aussi être bénis, Seigneur de gloire. Sois béni, toi qui as permis que nous puissions commencer avec toi et nous terminer avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Christine, pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour votre fidélité à la parole, à la méditation de la parole du Seigneur. Que le Seigneur que nous sommes venus chercher ce soir enlève la honte et l'opprobre dans notre vie et que nous soyons heureux heureuse à cause de son intervention dans notre vie quotidienne. Bien-aimé, il me reste qu'à vous dire au revoir et bonne nuit chez vous.
Merci, bien-aimé.